Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Très confortable aujourd'hui, c'est un 17 degrés comme température ressentie. Est-ce que ça va se réchauffer? Est-ce que ça va se refroidir? Non, peut-être un peu plus aujourd'hui même, un maximum de 20 qu'on nous annonce pour aujourd'hui. J'ai vu des motos aujourd'hui, ça faisait 2-3 jours, je n'avais pas vu. Je les salue, c'est vrai que c'est une belle journée pour faire de la moto. Mais 30% de probabilité d'averse d'après moi, ça devrait être terminé, là, aux endroits où il pleuvait du moins. Ce soir, cette nuit, nuageux, avec un minimum de 12 degrés. Demain, vendredi, c'est des averses qui devraient cesser en après-midi. Alternance de soleil et nuages avec un 5 à 10 mm annoncé pour ce qui est de demain matin. En soirée, minimum de moins 3 degrés, des passages nuageux. Et pour ce qui est du week-end, le topo n'a toujours pas changé. Samedi, du soleil avec un maximum de plus 5 degrés. Dimanche, c'est du soleil avec un maximum de plus 4 degrés. Salutations, mon nom c'est Yann Marceau. J'accompagne jusqu'à 14h pour cette première partie qui s'appelle l'Open Mic avec non pas Audrey Pinchot, mais Pascal CV qui est là, qui a le déguisement le plus épeurant qu'une personne puisse porter aujourd'hui, qu'une femme puisse porter aujourd'hui.
Je vais te laisser faire ta joke, mais ça me représente pas en ce moment.
Vas-y. C'est le déguisement de la femme qui recherche une relation sérieuse. Ça fait peur.
Hey, ça fait peur. C'est d'une épouvante. À ça, je vais répondre au cachot Dracula.
Au cachot Dracula.
Puis la deuxième, c'est...
Ça trouve pas bonne, ma joke?
Ben, c'est parce que je la trouve complètement stupide.
Les gars se sauvent hein, quand ils voient une fille qui cherche une relation sérieuse.
Hey, ça va être dur votre vie, messieurs. Mais je pense que, honnêtement, ça, c'est tellement minime, là.
Ouais.
T'as juste eu ça dans ta vie ou presque.
Des relations sérieuses, j'ai juste eu ça.
Fait que c'est ça, là. Commence-nous pas à faire des petites jokes
chaque
de Dracula.
Chaque fois que j'ai beau essayer faire le camp d'entraînement, je suis tout le temps repêché. Ils me prennent tout le temps dans l'équipe. Fait que je suis pogné.
Hey, et... sérieux, là? Je sais pas ce que t'as mangé cette semaine, mais il manque d'humilité dans ta pilule. Là.
Dans ma pilule? Non, pas de pilule.
Ils ont oublié de t'adonner. T'es c'est pas allé chercher ton renouvellement.
Ça existait pas, là, tu sais, les pilules de concentration quand j'étais jeune. Puis peut-être que j'aurais dû en prendre. Peut-être. Je sais pas.
Des pilules.
Nous autres, ils nous appelaient les petits tannants, puis on faisait des copies.
Ça n'a pas changé.
Je me souviens du baron de Munchausen. L'histoire du baron de Munchausen, parce que j'ai copié l'histoire comme pas possible. C'était aussi un Jean Goulet qui m'a fait copier ça comme pas possible au secondaire. Mais non, il n'y avait pas de pilules pour nous calmer. Hein.
C'est la grande journée des enfants et de l'hypersexualisation.
Oui.
Tout devient propice à être un peu sexiste.
Mais c'est encore comme avant. Quoi qu'on est jeudi ce soir, fait que les gens vont sortir.
Ouais.
Puis oui, il y a des gars et des filles qui vont se déguiser bien normalement. Puis il y en a d'autres qui vont faire preuve d'originalité dans le sexiness.
D'originalité?
Oui, ils vont être le plus sexy possible. Ils vont abuser.
Tu sais, quand t'es rendu déguisé en champignon sexy, là.
Champignon sexy!
Il y a des affaires qui me surprennent toujours.
Salut, joli duo monstrueux. Lisette qui dit ça. Salut,
oh,
Lisette.
Les...
Joli duo monstrueux.
Est-ce que toi, tu prends le monstrueux et moi le joli ou vraiment ça, c'était pour les deux?
Ah, ça va être... Elle l'a mis au masculin en passant.
Ah, monstrueux, eux. Ouais.
Non, joli.
Ah, mais c'est un duo. Fait que c'est normal. Ouais. Je vais t'aider avec ton français.
Le masculin l'emporte. Comme d'habitude.
Elle est tellement sexiste.
Ah, l'écriture.
C'est même le français.
Ouais, c'est sexiste. Hey, plein de choses à jaser avec vous autres. On va avoir un ancien flic de la Sûreté du Québec qui était au crime majeur qui va venir faire son tour. Vous le connaissez, c'est Danny Morissette, un collaborateur qu'on aime recevoir en studio. Toutes les questions que vous aimeriez poser à un policier ou un ex-policier, ben lui pourra vous répondre. Hier, j'ai envoyé à peu près 60 questions. Fait que je ne sais pas s'il est prêt à avoir toutes ces questions-là. Mais bref, on va s'essayer. Puis autre chose que je voulais discuter avec toi, est-ce que tu pardonnes facilement, toi, à des personnalités publiques qui ont été découvertes dans un sens où on ne le pensait pas pantoute de même. C'est-à-dire un genre de Philippe Bond ou un genre de Joël Legendre ou un genre de Éric Salvay. Des gens que, bon, il y avait des rumeurs, mais des rumeurs, c'est des maudites rumeurs. Puis tu te dis, regarde, c'est peut-être juste des gens qui m'aimèrent dans leur dos, tu sais. Peut-être de la jalousie, surtout dans ce domaine-là. Philippe Bond, ça n'a pas été facile pour ses victimes. Puis visiblement, il a été tassé assez rapidement. Et là, il tente de revenir. T'es-tu le genre de personne qui pardonne pas ce genre de petites écartades-là? Parce que moi, je te l'ai dit, je suis très clair là-dessus. À partir du moment où vous faites du mal de ce genre-là à un être humain, vous venez de me perdre. Mm-hmm. Tant en amitié que familiale. Supposons que c'est un cousin. Moi, c'est fini. Ce gars-là, c'est plus mon cousin. Puis non, j'écouterai pas ta musique. Ou non, j'irai pas voir un spectacle. Je dépenserai plus une scène pour toi. C'est fini, c'est terminé.
Ce genre de situation-là, c'est probablement l'endroit dans ma vie où je fais le plus de cas par cas.
OK.
Vraiment, analyser cette situation-là et voir comment je m'y sens selon chacune des situations. C'est là où je fais plus de cas par
Puis vous autres, c'est quoi, 418-971-101? Un gars comme Philip Bond, est-ce que si vous l'aimiez avant, puis vous savez qu'il y a eu des petites conduites sexuelles qui étaient un peu particulières...
Allons-y avec l'inconduite sexuelle, tu sais.
C'est ça. Puis il aurait fait du mal à des gens. Est-ce que vous pardonnez ce genre d'infraction-là? T'sais, même s'il n'a jamais été déclaré coupable de rien là, devant un juge, lui avait avoué que, bon, hein, ça, c'était pas... tous ces trucs-là, il s'attendait à ce que ça sorte à un moment donné.
Mais ça, ça me dérange plus. Parce que si, mettons, tu te dis « Ah, c'est sûr, ça allait sortir », c'est que tu étais encore plus conscient quand tu le faisais.
Ben, c'est 8 femmes qui ont porté plainte contre lui là, pour inconduite sexuelle. Ouais, fait que toi, tu y vas plus cas par cas.
Oui. Puis, tu sais, le vent d'en face étant le souhait de titre pour son podcast, là, en tout cas, c'est une des affaires... le vent d'en face.
Ouais.
C'est rare que j'arrête ma phrase là.
Mais... Hey, tu sais quoi? J'ai dit que je fermais tout le temps la porte quand il s'agissait d'affaires. Je pense qu'il y a une personne que j'ai peut-être pu comprendre, puis je ne sais pas pourquoi, c'est Marie-Pierre.
Morin?
Marie-Pierre Morin. Ouais. Elle était...
Tu penses que c'est une femme, était... une belle femme?
Non, non, c'est parce qu'on a toutes été sous la brosse, on a toutes fait des maudites conneries. Puis elle avait mordu à la cuisse de Safia Nolin. Ouais. Puis là, Safia Nolin, elle s'était positionnée en victime. À tort ou à raison, elle s'est dit qu'elle, elle était victime, puis ça l'a occasionné la chute de la carrière de Marie-Pierre Morin.
Mais tant que quelqu'un se sent victime dans quelque chose qui est d'une agression, elle est victime.
C'est ça. T'sais, pis, mais moi, tant qu'il n'y a pas un juge qui dit... T'sais, des fois, j'essaie de mettre 50 nuances de Pascal dans ma réflexion.
Je te jure que si tu mords la cuisse, je suis victime.
Ça dépend si tu le demandes.
Mais si je le demande pas.
Non, c'est ça, exact. Mais Marie-Pierre Morin... On dirait que, tu sais, on a toutes fait des conneries quand on était sous, quand on était jeune. Tu sais, on n'a pas... moi, j'ai pas vécu la vie de jeune adulte qu'elle a connue. Moi, je me concentrais plus sur le travail à l'époque. Mais plus jeune, 18-19 ans, j'en faisais des conneries d'un bord. C'était épouvantable à quel point on faisait des conneries.
On dirait que je me pose quand même la question des fois si je suis biaisée dans mon filtre. Mettons, Marie-Pierre Morin, je me suis posé la question à savoir si j'étais biaisée dans mon filtre parce que c'est une femme que je trouve très, très belle. Je trouve qu'elle rayonnait, mettons, publiquement. On ne connaissait pas le dark side de tout ça. Là. Je trouvais c'est une personne aussi qui avait eu une remontée assez spectaculaire parce qu'elle avait tellement été détestée dans une telle réalité. Elle semblait s'être remise sur une voie. Puis finalement, bien, il y avait quand même, c'est ça, une dépendance en arrière de tout ça. Elle l'a avoué, elle l'a dit haut et fort publiquement, elle a pris un pas de recul. Fait que je me suis quand même posé la question, est-ce que c'est parce que c'était une belle femme avec un certain charisme que ça me dérangeait moins? Puis je l'ai fait aussi, là, tu sais, je me challenge par rapport à ces situations-là parce qu'on est tous humains, là, on a tous des portes arrière un peu biaisées. Puis admettons quelqu'un que j'apprécie extrêmement beaucoup puis qui s'en prend à quelqu'un que je déteste, mais je cherche vraiment si je déteste quelqu'un dans la vie, là. Probablement, mais peut-être pas dans les personnalités publiques.
Puis dans le studio?
Je serais peut-être pas là. Je dis pas que de l'adoration, là, mais... Ouais, c'est pas de la détestation.
Parce que, tu sais, Philip Bond, c'est quelqu'un que, tu sais, son humour, je l'aimais bien. Je trouvais que sa carrière était quand même bien partie. On le voyait passer dans les médias une fois de temps en temps. Puis une fois que c'est arrivé, ces affaires-là, j'ai complètement décroché. Quelqu'un qui me dit, Yann, t'as quand même interviewé Julien Lacroix. Oui, parce que ça fait partie de mon travail. Savoir pourquoi, ça a été quoi son processus. Parce
que Julien Lacroix. Je suis d'accord avec ça.
Oui, Julien Lacroix a été sa brosse sur un méchant temps. Puis aujourd'hui, il vit les dommages de sa brosse qui a duré tant de temps.
Puis je sais que je te connais, t'aurais aussi pris en entrevue, si ça avait été possible, les personnes qui se sont dites victimes de Julien Lacroix.
T'sais, aussi.
Ça faisait partie aussi de ton travail, puis je sais que tu l'aurais fait. C'est pour ça que moi, je me dis ça, je trouve que c'est... Oui.
Sauf qu'il m'a offert des billets, puis je dis non, j'ai jamais...
On n'est pas là, toi et moi.
J'irai jamais voir ton spectacle.
Puis
j'y ai dit, c'était hors d'onde, là, bien sûr, parce qu'il me serrait la main et tout ça. Puis je dis non, je n'irai jamais voir ton spectacle, ça va à l'encontre. J'ai pas dit que ça allait à l'encontre de mes valeurs, mais je pense qu'il a compris. Je dis non, je n'irai jamais voir ton spectacle. Mais oui, je l'ai reçu en entrevue, Julien Lacroix, mais c'était plus pour le processus d'un gars à la brosse qui a fait des maudites niaiseries. Puis, tu sais, de savoir aussi quand tout le monde te déteste, là, tu vis ça comment?
Oui, parce que d'autres
quand t'es
gens qui,
de sortir de chez vous,
qui vivent ces choses-là, mais c'est pas nécessairement dans l'air public, là aussi. En tout cas, sortir de quelque chose, on a tous nos démons, on a tous des portions de notre vie où on est peu fiers de ce qu'on a fait. On a tous fait des erreurs. Puis je pense que quelqu'un qui n'en est pas conscient bien, est encore plus problématique parce qu'il n'en est pas conscient. Moi, ces gens-là qui se disent parfaits et ou qui ne se remettent pas en question, c'est mes pires ennemis, c'est les gens que je ne veux pas autour de moi. Fait que c'est pour ça que je pense que j'ai peut-être une tendance de faire du cas par cas puis analyser la situation puis dire cette personne-là, je pourrais la pardonner, celle-là peut-être moins et tout. En même temps, qui suis-je pour pardonner ou pas quelqu'un? Hein? La guillotine, moi, je ne l'ai pas inventée puis je ne devrais pas l'utiliser.
Ouais. Mais non, mais c'est propre à soi. Là,
c'est ça, exactement.
Tu sais, moi,
il y a des valeurs qui sont peut-être plus froissées des fois.
Tu sais, j'haïs personne. Ouais, j'haïs personne.
Je suis pas sûre, mais continue.
Non, j'haïs personne parce que quand tu haïs quelqu'un... Là,
c'est toi que ça impacte, normalement.
C'est de boire du poison dans l'espoir que l'autre crève.
Ouais,
c'est toi qui bois ce poison-là. Fait que j'haïs personne, mais il y a des gens que je peux éviter. Là. En fait, ces gens-là ont tout simplement disparu. Il y a une personne, en fait, en 40 ans qui a disparu de ma vie. Complètement. Puis c'était même pas un ami, c'était un collègue de travail.
Oui, oui. Ouais. Fermer la porte à quelqu'un... Ça, ça m'est arrivé, mais j'arrive jamais à cultiver la colère. Okay.
Est-ce que Joël Legendre, t'aurais pu lui pardonner?
Oui.
OK. Ça, c'est se branler dans un parc en plein jour.
Il n'y a pas d'enfant. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça déplorable. Je suis la première à faire toujours des jokes là-dessus, à ramener le fait que c'est arrivé. Je veux pas qu'on l'oublie.
Est-ce qu'Éric Salvaille t'aurais été porté à lui pardonner?
Il y a des gens qui ont été malheureusement extrêmement victimes.
Ben, c'est parce que là, t'es en train de travailler et tout d'un coup, ton boss te met
sa queue sur ton épaule.
J'aurais
peut-être dû dire son filet de porc sur l'épaule, mais je m'excuse, ça a été cru. C'est parce que moi, si ça m'arrivait, Yann. l'image, hein, te fait rire.
Moi, je veux pas être impliqué dans ce qui se passe, mais je veux juste être comme dans la pièce pour t'avoir la gueule.
Je me demande réellement. La première affaire, là, c'est que je suis certaine de savoir comment je réagirais, mais j'ai quand même un doute. J'aurais pu figer, là.
OK. Marie-Pierre Morin l'a dit. En as-tu d'autres qui se sont fait canceller des dernières années?
Philippe Bande, Marie-Pierre Morin. Il y a eu un genre de... Tu sais, dans tout ça, il y a eu un Alex Nevsky qui est passé à un moment donné. Parce
Alex
que
Nevsky.
Lui, il y a eu une relation qui a dit lui-même assez toxique avec une de ses ex. Il s'est auto-déclaré problématique relationnellement avec cette personne-là. Et ensuite, est sorti le témoignage de son ancienne conjointe. Tu sais, je pense qu'on a tous été toxiques à un moment donné dans une relation ou à une autre. Je ne sais pas si... On a tous été toxiques, on a tous eu des comportements toxiques. Puis des fois, il y a deux personnes qui sortent ensemble, qui ne doivent pas être ensemble parce que leur blessure, là, ensemble, ça devient super toxique.
Kevin Barrett.
J'aimerais ça savoir si j'ai déjà pu un fer de Kevin.
Kevin Parent? Oui,
je
non?
Je serais capable de passer à côté.
Ouais.
Mais tout est dans le après, hein?
Éric Lapointe?
Je trouve ça dur de passer à côté.
Okay.
C'est de la violence... Je comprends qu'il y a une violence sexuelle dans le verre.
T'es vraiment au cas par cas. Moi, c'est fini. À partir du moment où il y a une agression sur une personne, c'est comme terminé. Tu sais, va faire d'autres choses. Deviens, je sais pas moi, producteur. Fais d'autres choses. On veut juste plus te voir à la télé.
Parce que, mettons, je pense à... J'ai déjà vu quelqu'un là, autour de moi sortir son grand filet de porc dans un plein bar, puis il y a quelqu'un qui voulait pas voir ça, c'est sûr, là. Soit tout le bar au complet. Il y a personne qui voulait, même pas lui, je pense, qui voulait le voir. Puis c'était une espèce de comportement d'idiot, de début d'adulte, de colon, qui voulait juste, c'est pas faire rire le monde, mais c'est pas une joke. Puis lui, il trouvait ça une joke, puis il était enivré. Mais au-delà de ça, je sais que c'est une très bonne personne. C'est juste une espèce d'idiot dans un contexte de party qui veut tellement faire rire pour faire plaisir autour, mais c'est juste que ça fait pas rire ni plaisir. Mais ça fait rire sa gang de gars. Puis, tu sais, il y a tellement de conventions qui ont changé. Mais tout est dans Yannick le après. Puis moi, il y a certaines personnes qui ont fait des gestes qu'on pourrait qualifier de moins pires que d'autres dans ces accusations-là qui sont sorties sur la place publique, mais que je pardonne moins parce que je ne sens pas la sincérité et la réalisation des actes et du trouble qu'ils ont fait autour. Puis ça, pour moi, je pourrais te cancel, je pourrais ne pas t'aimer, ne pas te pardonner selon la réaction et comment tu vas agir en conséquence et prendre responsabilité de tes actions.
Mais il y a quelqu'un qui dit, si jamais Pascal se faisait faire un Éric Salvaille sur l'épaule, le filet de porc sera en danger, possiblement.
Il n'est pas seulement cuit. Connaissez-vous les 7 jours du talion?
Ah ouais, il est coupé, il est découpé.
Moi, le moment où c'est non consentant. Là.
OK. Ben bref, Philippe Bond qui va tenter un retour. Ça va être un podcast, comme Pascal vous l'a dit. Ça va être un podcast payant, de ce que je comprends. Là. Abonnement audio à 2,50 par mois.
Mais ça, y a.
Puis si vous voulez le voir, c'est un 4...
Ben pardonnez-moi, mais payez-moi. Je ne sais pas comment je me sens là-dedans.
Moi, j'ai pas trop. Il fait ses affaires. Les gens qui l'aiment ont le droit de le voir. Tu sais, comme les gens qui trippent sur Éric Lapointe.
Qui vont encore voir ce spectacle.
Qui vont le voir. Moi, je n'ai aucun problème à ce que vous fassiez ça.
Chacun fait ses choix.
Exactement.
Ouais, ça, je suis dans ton équipe.
Mais ce que je me posais comme question, c'est dans les médias, est-ce qu'on est prêt à revoir ces gens-là? Ben, comme toi, tu dis, c'est cas par cas. Il y en a qui sont vraiment sincères. Il y en a d'autres qu'on le sent plus ou moins qui sont sincères.
Puis il y a tellement de gens. Il y a tellement de gens talentueux. Je comprends qu'il y a des personnalités qui sont passées dans le tordeur, qui sont extrêmement payantes pour des réseaux, pour des boîtes médiatiques, pour ça. Fait qu'à un moment donné, ils se posent des questions. Bon, comment on va aller chercher de l'argent dans un contexte médiatique qui est difficile financièrement? Cependant, il faut réellement que la personne, je pense, prouve sa bonne foi, puis prouve son rétablissement, puis sur une bonne période. Mais la période fait une différence aussi.
Voilà.
Vous avez... Fait qu'en tout cas, avise-toi pas de mettre quelque chose que j'ai pas le goût sur mon corps.
Ouais, exactement. C'est bien dit, ça. 418-971-1021, 418-971-1021, si vous avez des choses à nous dire. Il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis. Vous pouvez nous en informer par texto. Pascal lit tous vos textos, soit dit en passant. Jean Leloup, Cookie sur les ondes de boulevard.
Ouais, c'est bon, ça.
Audrey qui est en vacances devrait être de retour lundi. C'est Pascal CV qui la remplace. Enfin, ça en prend toujours une pour m'achaler, finalement. Ils veulent pas, me laisser seule dans cette émission-là.
Moi, j'irais plus de même. C'est qu'on ne peut pas te laisser seule. Fait qu'il faut toujours que nous, on souffre pour être assuré que la programmation n'est pas pire.
D'ici là, 418-971-1021, si vous avez quoi que ce soit à nous dire, c'est par texto que ça passe. C'est un de mes moments favoris dans l'open mic. Je l'aime bien. C'est un collaborateur qu'on a déjà depuis quelques semaines. C'est un ex-enquêteur au crime majeur. C'est Danny Morissette qui est en studio avec nous. Salut, Danny.
Hey, salut Yann, salut Pascal, je vois Halloween.
Ouais, je pensais que tu allais te déguiser aujourd'hui en police.
Ah, non, c'est du passé, ça. Depuis que je suis retraité, je fais tout ça.
Et aujourd'hui, tu es déguisé en ex-policier. Journée de l'Halloween pour les policiers, c'est-tu stressant, ça? Autant pour la Sûreté du Québec que pour les policiers municipaux?
Bien, stressant, non, mais intéressant.
OK.
Je vous dirais. Ouais, un petit problème de micro. Bon, merci Pascal. On célèbre l'Halloween, nous autres aussi, la Sûreté du Québec, avec un projet. Un projet qu'on appelle le projet Démasqué.
Là, on parle de célèbre l'Halloween aujourd'hui avec un nouveau projet qui est le projet Démasqué ou c'est quelque chose qui existe depuis toujours?
C'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années, je vous dirais. C'est un sujet quand même qui est délicat. On va parler de pédophiles, de prédateurs sexuels, mais vous savez, la journée de l'Halloween, c'est malheureusement pas rien que la journée des enfants. C'est une belle opportunité pour nos pédophiles, nos prédateurs sexuels, de mettre des décorations afin d'attirer des enfants à venir chercher des bonbons, peu importe les trucs que vous leur donnez.
On dirait, j'y pense pas à ça. Puis d'habitude, mon cerveau va toujours dans les endroits sombres, là. Mais là, je pensais plus, mettons, à empoisonner ou niaiser. Mais si en même temps, ça, c'est une légende urbaine, mais c'est
des fois, ça vient aussi avec le fait d'être père ou mère. Là, tu deviens comme une survigilance là, que tu n'avais jamais eu de ta vie. Moi, à chaque fois, je jase avec mes gars. Je leur dis, si vous passez l'Halloween, il faut toujours que ce soit dans des endroits éclairés. Il faut tout le temps que ce soit dans des endroits que vous connaissez.
Vous rentrez pas chez la personne.
Vous restez le plus loin possible de la personne qui vous donne des bonbons. Puis vous leur dites un beau gros merci.
Soyez voyants aussi,
ouais.
Très voyants. Et les conducteurs, soyez prudents. Vous allez avoir des petits monstres à soir. Et autant que possible, soyez accompagnés d'une personne adulte au niveau de la prévention.
Ouais.
Mais pour revenir au projet Démasqué, c'est un projet qui se fait pas rien que la journée de l'Halloween, mais qui se fait plusieurs semaines précédentes. Comme la majorité des gens savent, on n'a pas une liste encore au Québec. On n'est pas rendu là comme aux États-Unis. De tous les pédophiles de la province, puis où est-ce qu'ils demeurent, etc. Par contre, au niveau du renseignement, on les connaît, puis au niveau des postes, je parle de la Sûreté, mais la Sûreté municipale de Québec, celle de Lévis aussi, on le sait où est-ce qu'ils demeurent. Puis on travaille toujours en collaboration avec le service correctionnel des libérations conditionnelles afin de s'assurer de l'adresse de ces gens-là.
Ils ont-tu le droit de décorer? Ils ont-tu le droit, une fois qu'ils sont sortis de prison et tout ça, ils sont sur une liste quand même souvent de prédateurs là, pendant 10 ans, je me trompe.
Ça dépend du crime.
Mais mettons, en moyenne...
Il y en a, ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être à vie.
S'ils sont sur cette liste-là, est-ce qu'ils ont droit de décorer? Parce qu'il faudrait comme arrêter ça.
C'est des conditions de remise en liberté qu'on appelle. Donc, dans leur cas, à eux, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais pour un individu, mettons, bon, tu es obligé de garder la paix pendant 2 ans. Mm-hmm. Tu ne dois pas côtoyer la victime dans un rayon de temps.
Mais j'ajouterais aussi peut-être pas inciter à côtoyer des enfants dans des fêtes.
Oui, mais une fois que la peine est purgée dans son entièreté, la personne a payé sa dette à la société.
Mais pour moi, ça irait avec la liste. C'était sa liste, on continue.
D'où l'importance, je suis d'accord avec toi, tant qu'à moi, il devrait tout être indéfini, être à vie.
Oui.
Mais au niveau des libérations conditionnelles, nous, une fois qu'on a l'adresse des gens, ils ont le droit, effectivement, de décorer. Mais par contre, mettez-vous dans la tête d'un pédophile, lui, c'est sa journée préférée, il y a des enfants partout. Je sais que ça fait... C'est dur à dire, c'est difficile, mais c'est la vérité quand même. Puis c'est important à savoir. Et d'où l'importance d'avoir toujours un parent avec vous. Et d'où l'importance aussi que si vous avez des soupçons de croire qu'il y a un individu bizarre qui décore puis qui semble être proche des enfants, gênez-vous pas, appelez la Sûreté du Québec, appelez votre service de police locale. Ils vont se déplacer. C'est une priorité pour nous. Au niveau des conditions... la condition au niveau des pédophiles la plus importante, c'est que, oui, ils ont le droit de décorer, mais ils n'ont pas le droit d'être en présence d'un enfant de moins de 16 ans, pour la majorité d'entre eux. Alors, nous, une fois qu'on a ciblé nos places, puis qu'on sait qu'il y a certains pédophiles qui ont mis des décorations, on va faire de la surveillance. La surveillance, on ne la fera pas nécessairement. Oui, il va y avoir des véhicules de patrouille avec des gyrophares et tout, mais il va également y avoir des véhicules banalisés que vous ne vous rendrez pas compte nécessairement. Ça, c'était ma gang avant que je prenne ma retraite.
Des parents qui accompagnent leurs enfants ou encore une voiture qui est stationnée. Mais là, finalement, c'est peut-être eux qui vont paraître louches. Là.
Mais nous, on va les surveiller. Nous autres, on va les surveiller, ces adresses-là.
En présence là, d'un enfant, c'est-tu donner des bonbons?
À partir du moment que tu es en présence d'un enfant, nous, on a le pouvoir de procéder à l'arrestation de cet individu-là parce qu'il vient de briser une condition à sa libération conditionnelle. Et par la suite, on monte un dossier, on le soumet au juge ou, si jamais c'est un bris au niveau de la libération conditionnelle, les services correctionnels vont s'occuper de décider si il enlève sa libération conditionnelle, donc il continue à poursuivre son temps, ou si on ferme les yeux ce coup-là parce qu'on n'a pas assez. Fait que nous, ce qu'on fait, il n'y a rien de mieux qu'une image, on va y filmer. On va y filmer, on va se mettre la preuve.
Donc, il y a une surveillance accrue des milieux policiers, tant du côté de la Sûreté du Québec que des corps municipaux pour surveiller ces individus-là. Nous autres, on s'en rend pas compte de ça.
Jamais.
Mais vous autres, vous les surveillez.
Oui, puis tu sais, je dis ça pour rassurer la population. On est là, puis on est là encore plus présent, mais vous ne nous voyez pas nécessairement parce qu'on va être en véhicule banalisé, on va être à pied, on peut être déguisé. Mais on est prêt à intervenir si jamais il arrive de quoi.
OK. Hey, ce qu'on a eu l'idée de faire aujourd'hui avec un ex-enquêteur au crime majeur, Danny Morissette, c'est de faire mille et une questions qu'on aurait aimé poser à un enquêteur au crime majeur ou encore à un policier. Puis on invite les auditeurs à participer à l'aventure parce que c'est ça l'open mic. Là. On parle de tout ce qui est comportement humain, tout ce qui touche l'être humain. On parle des corps de métiers qui peuvent être différents, des métiers exceptionnels, puis d'autres peut-être un peu plus méconnus. 418-971-1021, c'est par texto. Je vais y aller avec ma première question.
Yes, on jase.
Est-ce que les policiers doivent régulièrement passer des tests de tir ou encore des tests physiques durant leur carrière?
OK. Bon, mais les tests de tir, oui. Je vais parler pour la Sûreté du Québec parce que chaque corps de police a ses propres directives internes. Au niveau de la SQ, c'est une fois par année. Ça, c'est sur papier.
Oui.
En pratique, il y en a plusieurs, malheureusement, qui peuvent attendre 2, 3, 4 ans avant de se faire ramener à l'ordre pour aller tirer. Puis actuellement, ce qu'on vit... c'est drôle, ça me fait penser à ça. Avec nos salles de tir, la majorité qui sont à l'intérieur des murs, on a un problème au niveau de la poussière, au niveau de la salle de tir. Puis on a la CSST, c'est ça, les normes du travail là, qui sont là-dedans. Et puis toutes les salles, ou à peu près, ont été fermées pour rénovation. Ce qui fait en sorte...
ça. Mais vous allez dans les clubs de tir, ça se peut-tu? Parce que moi, j'ai un beau séjour là, du côté, l'autre côté des ponts. C'en était un où il y avait des policiers qui allaient s'entraîner. Mais c'était-tu une initiative personnelle?
Ouais, c'était vraiment de leur propre chef.
Ça, habituellement, c'est une initiative personnelle. Puis tu sais, on dit une fois par année, ça, c'est selon nos directives à nous. Mais on peut y aller plus souvent aussi, si on a plus de disponibilité. Il y a le groupe d'intervention tactique qui va pratiquer, évidemment, plus souvent qu'un enquêteur. Un patrouilleur va peut-être pratiquer plus souvent. Puis d'ailleurs, la durée, on a deux types d'armes au niveau de la patrouille. On a le Glock 26,
oui.
qui est le gros Glock. Puis nous autres, les enquêteurs, c'est l'inverse. On a le Glock 26, puis les patrouilleurs ont le Glock 19. Puis là, c'est une journée seulement. Au niveau des patrouilleurs, c'est toute la journée. Dans l'avant-midi, ils font de la pratique. Puis l'après-midi, ils vont faire des situations, des mises en contexte, puis des pratiques virtuelles.
Ouais. Hey, ça, j'ai essayé ça à Nicolette, là.
Ouais.
Ah ouais.
Puis, faut être ferré. C'est un des reportages sortis, là, amoché, là, mentalement puis physiquement, là, parce qu'il y avait aussi un couteau électrique, là, qu'ils m'ont testé dessus, là. Puis le couteau électrique, il donne des impulsions, mais comme il te la serre d'une manière pas ouverte.
Quand tu dis couteau électrique, c'est un taser gun?
Mais c'est pas un taser gun, mais c'est un genre de mini taser électrique en couteau. Fait que toute la lame, le pourtour de la lame est électrifié.
OK.
Puis ça va sur ta peau, fait que ça te donne le choc. Mais comme t'es lacéré, mais en lignage, mais pas en profondeur. Tu comprends? Ouais. C'est à la surface de la peau. Puis lui, il arrive, il est habillé comme, bonhomme Michelin de protection. Puis moi, je suis juste moi, avec ma petite veste de policière. Là, puis il est entraîné pour être capable de me... Puis j'avais dit, là, agissez comme n'importe quel policier qui est à Nicolette, étudiant et tout, là, je veux pas que vous m'épargniez. Eh, mon Dieu, et quand je l'ai dit, ils l'ont fait, là. C'était un moment donné, j'ai dit, OK, c'est beau, j'ai compris le principe, puis tu réussis pas à être aussi forte qu'eux, là, sont entraînés.
Mais pour ce qui est de l'arme, ça, c'est votre vie, là, je veux dire, c'est votre vie qui est en jeu. Vous devez régulièrement, j'imagine, pour les policiers, faire des exercices, là, de tir.
Bien, d'où l'importance que les patrouilleurs, c'est une journée au complet. Nous autres, aux enquêtes, c'est seulement une demi-journée parce qu'ils sont premiers intervenants sur les lieux. Puis aussi parce qu'on tire mieux qu'eux autres, c'est pour ça que c'est moins long. je fais des blagues, là. Je sais qu'il y a des patrouilleurs qui m'écoutent, je les adore, là, ils me connaissent.
Mais c'est compliqué, une fois par année, on dirait, j'ai l'impression que c'est peut-être pas assez aussi dans votre métier, puis... probablement que ça dépend, mais tu sais, vous avez plein d'autres armes à maîtriser, puis vous êtes tellement regardé sur l'utilisation des armes. Tu sais, de sortir son fusil, là, tu peux être extrêmement blâmé, tu peux perdre ton travail. C'est pour ça que vous avez aussi le bâton rétractable, vous avez le poivre de Cayenne, vous avez une couple de trucs sur votre ceinture. Puis ça, vous le pratiquez en simulation. Quelle bonne arme vous devez choisir à quel bon moment, puis à quelle fréquence et rapidité d'exécution vous la sortez. Puis rendu là, super rendu sur vous.
Non, c'est ça. On a un procédé au niveau de l'utilisation de la force, contact verbal, contact physique, utilisation d'armes intermédiaires, utilisation d'armes létales. Mais tu sais, on a tout un processus à suivre avant d'arriver à l'arme. Moi, sincèrement, dans les années de service que j'ai eues, c'est sûr que j'ai fait moins de patrouilles que la majorité du monde. J'étais plus aux enquêtes, donc mon arme prenait la poussière, comme on dit. Mais quand j'étais patrouilleur, je pense que je l'ai sorti deux fois dans ma vie.
Ah, c'est ça. Parce que vous êtes tellement surveillé. Ça vient-tu stressant pour les policiers de la sortir maintenant dans une situation?
Bien, on ne veut jamais la sortir, cette arme-là. Moi, personnellement, à un moment donné, on l'oublie quasiment tellement qu'on ne la sort pas. Mais oui, c'est stressant. Une fois que tu l'as sortie, là, tu ne peux plus la ranger. Tu es vraiment rendu à l'étape ultime. Tu ne peux pas la ranger puis sortir un bâton télescopique, sortir le poivre de Cayenne. Il est trop tard. Parce que si l'individu est à 9 mètres de toi avec un couteau, il a le temps de t'atteindre avant même que tu aies tiré. C'est démontré.
Mais ça, est-ce que c'est différent aux États-Unis? Parce que je m'étais fait intercepter sur l'autoroute aux États-Unis, il devait être 3 heures du matin ou 4 heures. J'étais à moto. Puis je faisais la transition entre deux États. Puis le policier, tout de suite, il avait la main sur son arme. Là. Il s'approchait de moi, puis il avait la main sur son arme. Tandis qu'au Québec, il t'approche dans l'angle de ta portière.
Oui.
Pour ça, c'est leur protection à eux. Puis jamais que je vois des policiers avec la main sur leur arme. Souvent, ils sont avec leur flashlight puis ils vérifient qu'est-ce que tu es en train de faire avec tes mains. Mais aux États-Unis, ils ont l'air plus rapides à avoir la main sur l'arme.
Ben, je vous dirais, moi, au Québec, j'ai eu cette formation-là. Puis à toutes les fois que j'intercepte un véhicule, j'ai toujours ma main sur mon arme. Au départ.
C'est juste qu'on ne le remarque pas.
Oui. Okay. Mais je sais qu'aux États-Unis, c'est sûr qu'ils ont un contexte différent. Ils ont une formation qui ressemble à la nôtre, mais avec ce qu'ils vivent, leur réalité.
Les gens peuvent être armés pour plusieurs, donc ils sont pas mal.
Puis c'est pas des rumeurs, là. Fait-on intercepter aux États-Unis versus au Québec, il y a une méchante différence, là.
Est-ce qu'ils ont le même protocole du BEI, admettons, tu sais, que si un policier, puis là, arrête-moi quand tu le veux, mais ce qu'on m'avait dit à Nicolette quand j'avais fait cette formation-là, c'est qu'ils sont tellement scrutés par le BEI, puis si tu sors ton nom, il faut que tu remplisses des papiers, des formulaires, et s'il y a accusation, quoi que ce soit, ou prétention de croire que c'était pas la bonne arme que tu as sortie à ce moment-là, t'es hautement sanctionné. Est-ce que c'est la même chose du côté des États-Unis ou c'est un petit peu plus lousse?
Au niveau des États-Unis, je peux pas vous le dire, parce que je le sais pas, je voudrais pas vous induire en erreur, mais au niveau du Québec, sortir une arme, peu importe laquelle, on ne remplira pas de rapport. Ou à tout le moins, ce n'est pas rendu là. Puis j'espère que ça ne se rendra jamais là, parce qu'on en a déjà assez, comme on a déjà discuté. Mais à partir du moment où on utilise une arme intermédiaire ou l'arme de service, là on tombe dans la paperasse.
Avec les rapports, c'est ça.
Absolument.
Quand vous tirez,
mettons qu'on tire ou qu'on, voilà. Comme tu parlais tantôt, de ton couteau.
Parce que Pascal parle, c'est quand il y a une enquête avec le bureau indépendant.
Ouais. Ah, ben là, écoute.
Là, ça, c'est s'assurer, là.
C'est ça. Quand il y a enquête, c'est
mais
sûr qu'il faut remplir
la paperasse. Mais quand tu le sors dans une situation contextuelle où c'est pas certain que ça devait être adéquat, est-ce que tu fais encore cette paperasse-là?
Non.
Okay. Les tests physiques maintenant chez nos policiers, ça se passe comment? Moi, je trouve que, tu sais, ça fait une couple de décennies que je vis, là, je trouve que ça s'est beaucoup amélioré, la forme physique de nos policiers et de nos policières. Moi, je me souviens que dans les années 80, on voyait beaucoup d'obésité morbide chez nos policiers. Mm-hmm. Je trouvais ça inquiétant, là. Vous êtes embauché pour la police, dans la police pour courir après les voleurs. Bon, de moins en moins, ce que Hugo Girard me disait, c'est que lui, ne courait pas quand il était dans la police.
Non, puis j'ai travaillé avec à Gatineau. Effectivement, il n'avait pas besoin de courir.
Lui, il ne courait pas. Mais la forme physique s'est beaucoup améliorée. Est-ce que c'est les policiers eux-mêmes qui se sont pris en main ou c'est des nouvelles normes gouvernementales qui font en sorte que vous devez vous entraîner?
En tout cas, c'est pas une norme gouvernementale, ça, je te confirme ça. Je vais te parler d'une aberration qui vient de venir à l'esprit avec ta question. Quand tu appliques pour aller en technique policière, tu as des tests physiques. Une fois que tu es rentré en technique policière, la dernière année, tu as des tests physiques. C'est vraiment des tests qui sont difficiles. Vous irez voir sur Internet, vous avez la course, vous avez le redressement assis, les push-ups, les chin-ups, la natation.
C'est encore très exigeant ou on a baissé un peu les critères?
Selon moi, c'est plus exigeant. Moi, à l'époque, il n'y avait pas la natation. Okay. Et heureusement, parce que je nage comme une roche.
Donc, les tests physiques sont rendus plus exigeants qu'ils étaient.
Oui, moi, je trouve. La course, c'est la même chose. Mais la course, il faut que tu cours, entre autres, 2,7 km en 12 minutes dans un gymnase de 100 mètres. Fermé, pas d'air, rien. Moi, je trouvais ça très difficile. Pour un militaire, par contre, c'était très facile. Les anciens militaires qui rentraient dans la police, eux autres, ils réussissaient ça très, très facilement. Après ça, tu rentres en Nicolette.
Ouais.
Ça te prend des tests physiques pour rentrer en Nicolette. Puis après, tu appliques d'un poste de police, peu importe lequel, ça te prend des tests physiques aussi.
Faut garder le rythme un peu, là, rendu là. C'est...
Fait qu'à peu près, ce que je viens de vous compter, c'est en l'espace de 4 ans, tu as 4 tests physiques à passer. Tu rentres dans la police, je pense qu'en 27 ans, j'ai levé des plates. Ah, j'ai compté sur mes doigts. Je suis pas allé au gym plus que 10 fois.
D'où l'aberration.
Épouvantable comme aberration. On
s'entraîne. C'est pas de métier de compétence, là.
Oui, mais tu faisais du sport au travers.
J'avais pas le temps.
T'avais pas
le temps. J'ai recommencé à faire du sport quand j'ai pris ma retraite.
Ça aurait été motivant et motivé, en fait, d'avoir encore ces tests physiques-là. Aussi tannants peuvent-ils être?
Bien, à part certaines spécialisations, comme ceux qui s'occupent des personnalités, la protection des personnalités, je reviens au groupe d'intervention tactique qui, eux, vont s'entraîner. Ceux qui sont responsables des mesures d'urgence, qui vont faire des recherches et sauvetages en forêt. Les plongeurs, eux, ils ont l'obligation de passer des tests physiques. Mais le patrouilleur, l'enquêteur ou les autres secteurs d'activité, c'est fini. Il n'y a plus de suivi au niveau de la forme physique.
On jase souvent, Yannick et moi, de ça parce que, bon, avec la cybercriminalité, la façon dont, justement, le crime s'est transféré sur le web avec les enquêtes, avec les fraudes, avec les... On se demandait si jamais une personne n'a pas une superbe forme physique, mais, par exemple, est un brain, est un cerveau du côté web, qui est un pirate informatique, mais pour les bonnes causes, puis on souhaiterait peut-être... créer une escouade encore plus sincère, plus sérieuse là-dedans, puis ne épargner ces gens-là des tests physiques parce que de toute manière, ils ne seront jamais, jamais sur le terrain. Ce serait-tu quelque chose d'intéressant à implanter? Ou ça aurait-tu dû être fait avant?
Ah, ça aurait dû être fait avant, ça, je te le confirme. Mais, puis, tu sais, nous autres, les policiers, peu importe comme tu parles de ton escouade, on souhaite vraiment être en forme. Puis à l'époque, on avait des gymnases d'un quartier généraux, des gyms, puis ils ont décidé de les fermer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de surveillants, puis il est arrivé des incidents, que des gens se sont blessés. Donc, la décision a été prise par un gestionnaire de tout fermer ça, mais là, tranquillement, pas vite, ils sont en train de les réouvrir.
Mais quand c'est pas essentiel, par exemple, au travail du dit policier, comme si on avait cette escouade-là?
C'est essentiel. Puis je l'ai appris sur le tard. J'ai pas couru 100 fois, moi, après un bandit. J'ai pas eu à me battre souvent dans la police. Je discutais beaucoup plus. Mais j'avais besoin d'être en forme physique. Pourquoi? À cause des horaires. Mmh. À cause des nombreuses heures de temps supplémentaires. Oui. Je me souviens d'un mercredi 23 décembre, où c'est que j'ai commencé à travailler au crime majeur. Je me suis couché le 27 au matin. Si j'avais pas été en forme physique... Puis, tu sais, j'ai pas couru après personne, mais tu parlais du mental... En forme physique, ça l'aide le mental. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans.
Mais,
là.
Je veux dire, il y a plein de corps de métier qui n'ont pas le choix. Tu sais, les gars, c'est la construction, ils n'ont pas le choix d'être en forme physique. C'est les policiers, les militaires, les pompiers. Tu sais. Imagine-toi un pompier qui dirait bah, moi, ma forme physique, c'est pas important. C'est parce que tu risques la vie des autres que tu veux sauver. Tu sais.
Voilà.
Il faut vraiment que tu t'entraînes. On passe sur les méthodes d'interrogation, d'interrogatoire, je pense que je devrais dire. Êtes-vous encore sur la méthode Reid au Canada?
Absolument.
Ouais. C'est quoi cette méthode-là?
Écoute, on pourra en parler pendant une chronique entière, mais la technique Reid, ça doit faire... moi, je l'ai suivi en 2000, fait que ça fait au moins 25 ans qu'on l'utilise au Québec, je sais pas, au Canada. C'est une technique qui est basée beaucoup sur l'écoute, puis il y a plusieurs étapes à suivre. On va beaucoup parler au niveau des liens communs. On va débuter avec des liens communs. Là, je vous la conte vraiment rapidement. On va écouter son histoire, parle-moi de ta journée à partir du moment que tu t'es levé jusqu'au moment qui est arrivé l'incident. On va y aller beaucoup sur l'émotion, comment que tu t'es senti là-dedans. Il faut pas porter de jugement, même si le crime est crapuleux puis il est indéfendable. Puis
c'est-tu difficile, ça, pour un enquêteur?
Alexandre Bissonnette, là, quand il était en interrogatoire, les gars, ils savaient ce qu'ils venaient de faire à la mosquée. Puis la plupart des policiers ont dit, là, vous savez pas, ils ont dit aux enquêteurs, vous avez pas aucune idée de l'intérieur de la mosquée, de l'état dans lequel elle est, puis des victimes. Les gars, ils savaient qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Ça devait être dur pour eux de pas y en sacrer une en arrière de la tête. Là.
Ben Steve Girard, qui l'a interrogé,
oui.
Que je connais, il va prendre sa retraite prochainement, il l'a trouvé très difficile, mais... C'est quand même encore tabou. Mais c'est sûr, Steve, il y a pas mal de dates. Là. Il en a pas parlé ouvertement. Lui, quand tu arrives en interro, il faut que tu fasses abstraction de ça, même si des fois ça t'en revient en tête, parce que tu as un but en interrogatoire, c'est que l'individu passe aux aveux. Puis sincèrement, dans ce cas-ci, c'était pas vraiment difficile. Même si on n'avait pas obtenu les aveux de cet individu-là, il aurait été reconnu coupable pareil.
On avait
les preuves, on avait les images, on avait tout. Fait que là, au niveau de l'obligation de résultat, elle est moins là. Mais il y a quand même une obligation de rigueur. Puis nous autres, ben, si on a des aveux écrits, tant mieux. Ben, dans ce cas-ci, c'est la vidéo. C'est un bonus.
Quelqu'un que vous êtes pas hors de tout doute certain, mais que vous pensez vraiment avoir le bon candidat, il vous manque des preuves et tout, justement, d'interrogatoire. Si tu veux étirer les verres du nez, faut être qu'un doigté verbal.
Bien, c'est ça que moi je disais. Tu sais, il y a les crimes majeurs, puis il y a les crimes contre la personne. Les crimes contre la personne, c'est exclusivement des meurtres. Puis moi, je les agaçais souvent. Je leur disais, vous autres, c'est facile. Vous arrivez, puis le gars, il a le couteau dans la main plein de sang, puis il dit, qu'est-ce que je viens de faire là? J'ai tué ma femme. Tandis que nous autres, on arrive sur une scène, on n'a pas de suspect, on n'a pas de témoin. C'est un secteur
isolé. Un genre de Marc-André Grenon avant d'avoir les preuves d'ADN là, dans une salle. Quand tu veux tirer l'homme qui avait tué une jeune femme à Jonquière puis qui avait agressé une autre femme
à cette fois. Oui, on en a parlé l'autre fois.
Bon, ben ce gars-là, avant qu'on ait des preuves d'ADN, l'avoir dans ta petite salle d'interrogatoire quand tu as des doutes ou...
C'est fatigant. Puis ce qui est plus fatigant en interrogatoire, c'est que tu passes 2-3 heures, ça dépend du crime aussi, puis le gars, il dit, j'ai rien à dire, mon avocat m'a dit de rien dire, t'es bien fin, t'es bien gentil, mais j'ai rien à dire. Puis là, il faut que tu continues. Avec tes thématiques différentes, tu vas parler des finances, tu vas parler de la famille, tu vas parler, après ça, des amis, des groupes de musique. T'sais, j'ai déjà fait avouer un gars parce qu'il y avait un chandail d'Iron Maiden, puis je connaissais un peu Iron Maiden, puis on a fait des liens communs. Puis finalement, il a dit « t'es cool ». Moi, j'ai un méchant défaut, je fume la cigarette. Les gens, je le dirais pas fort, mais les gens oublient que même si t'interromps l'entrevue ou l'interrogatoire pour aller fumer une cigarette, tes droits sont lus. T'es dehors, tu fumes avec ton
enquêteur,
policier, mais t'as encore tes droits constitutionnels. Fait que si tu me parles dehors, écoute, c'est aussi valable que si t'es dans une salle d'interro.
Exact.
Moi, ça m'aidait énormément.
Puis il avait avoué ou il avait
donné... On dirait que dans un contexte différent, dehors, en regardant les oiseaux, en fumant une cigarette, en relaxant...
En étant fatigué
mentalement. En étant fatigué mentalement, à se faire garrocher des questions à gauche et à droite, Ils avouent tout, puis là, tu rentres. Bon, OK, on va être rendu à écrire maintenant. OK, c'est beau.
Y a-t-il des conjoints-conjoints, ces gens-là, qui font les interrogatoires? Ça doit être épouvantable au quotidien, ça? Être capable de mentalement manipuler pour le meilleur et pour le pire quelqu'un qui est devant toi?
Écoute,
une femme enquêtrice, là, quand t'es son conjoint, ça doit être l'enfer.
C'est ça, c'est... Hein?
Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui?
Ben oui. Les bonnes femmes enquêtrices.
Ben, les femmes, souvent, sont meilleures que les hommes. Moi, j'ai une femme, là, Chantal, je veux pas la nommer, mais Chantal Gamache, elle avait même pas un mot à dire. C'était une femme qui dégageait un charisme extraordinaire. Puis elle arrivait devant le suspect. On pourrait en parler longtemps. Puis elle la regardait. Puis là, un moment, le suspect commençait à bullshiter. Puis là, elle faisait dire, « Yann, come on. » Tout de suite, là, « OK, c'est beau, Chantal, je vais tout te dire. »
Chantal a eu tout ce qu'elle voulait dans la vie.
Ben, il y a une question de personnalité puis de profil aussi. Oui. Le gars qui est introverti puis qui a de la misère à discuter, à communiquer, il va avoir plus de difficultés à obtenir des aveux.
Roger Ferland, qui est un ex-enquêteur du service de police de la Ville de Québec, m'avait dit que c'est très important avec le suspect qui est en interrogatoire d'essayer d'avoir un lien de confiance avec lui, puis un lien de confiance franc. Mm. Pas de mentir à cet individu-là, mais de conserver le lien de confiance qui va faire en sorte que autant l'enquêteur va être droit avec l'individu, autant que l'individu va être droit envers l'enquêteur pour ce qui est du témoignage, la rédaction.
Mais l'individu, il sent pas que... Tu sais, faut-tu être plus stupide que la moyenne à un moment donné? T'es un policier devant toi et tu sais pourquoi il est là, tu sais c'est quoi sa job, puis là tu commences à...
Il m'a pas donné ça comme exemple, mais peut-être que Danny pourra me le dire, mais si l'individu lui dit « Garde, Danny » ou « Garde, Roger », c'est moi qui l'ai fait, puis je vais collaborer à ton enquête. Ben, l'enquêteur va se présenter en cours en disant, savez-vous quoi, cet homme-là m'a donné son témoignage, puis il m'a dit qu'il allait collaborer.
Mais tu sais, un individu...
Donc, c'est un point positif pour le juge.
Oui, ça, on le voit en cours, là, souvent, là, même des peines qui sont allégées à cause de ça, puis on est capable d'avoir des ententes entre la couronne puis la défense, puis par ce genre de situation-là. Mais tu sais, un individu qui ne veut pas avouer, mais qui est devant vous, dans la petite salle, puis là, Mané, il est bien chômé, ce policier-là. Il n'est pas capable de se dire dans sa tête, c'est un peu évident que ce policier-là, c'est pas mon grand ami parce qu'il veut souper avec moi à la tourtière à Noël.
Faudrait lui poser la question.
J'aimerais ça, oui.
Personnellement, je vous dirais que c'est pas rare qu'il me soit arrivé de rencontrer des suspects bien des années plus tard qui m'aient serré la main et qui m'aient dit « Hey, je me souviens de toi, t'étais correct ». T'étais smart avec moi, puis sérieusement, t'avais un travail à faire. Je le savais que j'étais fait avec toute la preuve, mais de la façon que tu m'as traité, j'apprécie. Puis c'est même déjà arrivé que certains suspects m'aient fourni de l'information après, dans le futur. Parce que, comme tu dis, j'étais pas frame-up. Puis en interro, t'as pas le droit de faire de promesses. T'as pas le droit de dire, regarde, si tu parles, je vais parler à la couronne, puis elle va te donner moins, elle va demander moins de temps de prison, ou des menaces, genre, si tu parles pas, ben, tu sais, ta photo va apparaître un peu partout sur Internet. Ouais.
Mais la relation entre les policiers puis les criminels s'est améliorée, je pense, à partir du moment où il n'y avait plus de bottins téléphoniques dans le bureau d'enquête.
Mais ça a-tu tant changé? T'sais, avant, c'était bien agressif, pour vrai, ou...
Ben, quand j'ai commencé, écoute, nous autres, on avait le CQCR, là, claque-question, claque-réponse.
C'est vrai, ça?
Ben, écoute, c'est une légende.
C'est une légende.
C'est une légende.
C'est juste une légende.
Je répète ma question. C'est vrai, ça?
C'est vraiment une légende.
Puis, curieusement, dans le même temps qu'ils ont changé, ils ont enlevé le bottin téléphonique aussi. Puis là, ben, on dirait que la relation s'est comme améliorée. Les techniques se sont améliorées aussi.
C'est-tu autant une légende que Miguel ou...
Ah, peut-être. Peut-être, mais ça, c'est un autre sujet. Hey, c'est-tu difficile de faire la coupure quand on est un policier ou une policière, puis on arrive dans notre vie normale? Avec nos conjoints, notre conjointe, nos amis, la gang au hockey. C'est-tu facile de dire, OK, là, il faut que je me parle. Là. Moi, je suis police, là, mais ces gars-là, ce qu'ils sont en train de faire là, ça n'a pas de crise de bon sens. Si mes chums police me voient, ils vont me dire, qu'est-ce que tu faisais avec ces petits bums-là? C'est-tu difficile de faire la coupure?
Ça dépend. Ça dépend de chaque personne, je pense. Il y en a qui sont capables, qui ont la capacité de faire une coupure instantanée. Moi, je t'as pas de même. Moi, j'ai un trouble obsessionnel, ce qui fait en sorte que...
Un vrai ou pas? Parce que c'est intéressant, là, si ça en est un vrai en tant qu'enquêteur.
Il n'est pas diagnostiqué, mais en tout cas...
Il est douté.
Mes boss l'aimaient bien, ce trouble-là.
C'est ça, ça peut être positif là-dedans.
Ouais.
Tu te méfiais de chaque individu que tu rencontrais?
Ben pas juste ça. mettons que mon chiffre finissait à 4 heures, ouais. moi, tant que ma journée n'était pas complétée,
tu restais là.
Je restais là. Je regardais, oui, gratuitement. Puis, je voyais mes collègues partir, comme si la vie continue, on passe à d'autres choses. Mais c'est sûr qu'il y en a qui ont des enfants aussi au travers de ça. Moi, j'en avais pas.
Ouais.
Puis, pour en revenir à ta question, faire la coupure, quand tu es policier, le soir, là, quand tu as fini de travailler, tu es encore policier. Puis, tu l'es tout le temps. J'étais à la retraite, mais j'ai encore des réactions de policier. Écoute, je vais te conter une histoire qui est arrivée à Gatineau très rapidement. Je suis à Gatineau, je commence, je suis bébé policier, puis à un moment donné, il y a une chicane qui prend dans un restaurant, j'étais avec un gars avec qui j'étais, puis la chicane prend au niveau verbal, puis à un moment donné, l'homme décide de donner une de ses rares clés à sa femme. On est au moins 50 personnes dans le restaurant, et là, je suis pas actif, là. Je suis policier, mais je suis en congé. Je n'ai pas le choix d'intervenir, là. Ça n'a pas de sens ce qui se passe. Donc, j'interviens. Et finalement, la chicane prend avec le gars. On se tire pendant un bon 2-3 minutes. Les chaises revolent. Il n'y a pas un chat qui veut m'aider dans le restaurant. Le monde ferme les yeux. Ça joue à l'autruche. Mon chum, mon supposé chum, s'est poussé, ça fait longtemps, parce qu'il est policier et il ne voulait pas être impliqué là-dedans. Il a peur d'être dans le trouble. Fait que je me rembourse tout seul. Les policiers arrivent. Tu as un bébé police, ils me reconnaissent. Mais c'est moi qui ai été arrêté. L'autre, c'est lui qui m'a sauté dessus. Et là, la femme de ce gars-là, qui a mangé une raclée, a dit, c'est lui qui a commencé en me pointant moi. Là, je me ramasse avec tout le monde contre moi parce que j'ai intervenu alors que j'étais pas policier.
Ouais. Puis l'autre n'était pas arrêté non plus.
Ben là, finalement, heureusement, j'ai des gens qui ont parlé pour moi et qui ont dit, non, ça n'avait pas de sens. C'est une chance qu'il a intervenu, personne ne faisait rien. Mais ça fait réfléchir.
Ben oui.
Là, tu te dis, crime, le prochain coup, qu'est-ce que je fais, moi, là, je prends ça. Je vais-tu risquer mon travail? Mais j'avais pas le choix.
S'il n'y a pas de preuve la prochaine fois, ou s'il n'y a pas. Puis cette femme-là, probablement qu'elle était sur le joug de l'autre, puis elle se disait, je vais prendre son bord parce que ça va être moins pire après. T'sais.
Elle était sur son emprise, c'est clair.
C'est ça, là.
Mais demain matin, je referai la même chose, puis je suis plus policier. Puis j'espère que le commun des mortels fera la même chose. C'est inacceptable. Là.
Mais on vit dans une drôle de société où te mêler de tes affaires, des fois, c'est mieux que de te mêler de ce qui te regarde pas, puis peut-être de sauver la vie de quelqu'un ou d'empêcher qu'une femme se fasse battre. C'est une société weird qu'on vit actuellement en 2024.
Peut-être parallèlement, avant de passer à une autre question, une sous-question par rapport à ça. T'sais, est-ce que vous êtes toujours dans votre rôle? Bien, psychologiquement, ça prend beaucoup d'aptitude pour le travail que vous avez fait longtemps. Là. Est-ce que vous analysez toujours les personnes qui sont devant vous ou vous avez le radar à off? Des fois, mettons, vous arrivez en studio ici, il y a Yannick, il y a Pascal. Puis là, par les questions, par l'attitude ou autre, vous catégorisez un peu le type d'individu qu'on est. Puis c'est comme ça que vous le vivez au quotidien.
Bien, je vous dirais que la première impression est souvent la bonne. Fait que moi, personnellement, les 10 premières secondes sont très importantes.
Ouais.
Je suis pas mal en mesure de savoir où on allait voir sur Internet maintenant qu'il y a la meilleure banque de renseignements policières dans le monde. Je suis capable d'avoir déjà une pas pire idée de l'individu que j'ai en avant de moi en discutant avec beaucoup. Je vous dis pas que beaucoup plus, mais je vous dis pas que la première impression est toujours la vraie. Il y a du monde qui mérite d'être connu.
Comme Yannick.
T'sais, Yannick, je pensais que c'était un voyou la première fois que je l'ai vu, puis finalement, c'est un gars. Avec un grand cœur.
À 16 heures.
À 16 heures. Qui aide les enfants, d'ailleurs. Vous irez voir sur Facebook. C'est très beau, ton témoignage.
Ouais. Danny, ex-enquêteur de la Sûreté du Québec au crime majeur, c'est-tu difficile quand tu as l'impression que des fois, tu peux te tromper dans certains cas? Tu sais, de faire des enquêtes, d'avoir des individus devant toi, puis le gars, il est tellement bon menteur, la fille est tellement bonne menteuse que tu te dis, hey, il est tellement bon qu'on dirait que je suis en train de le croire. Là. Ça t'a-tu joué dans ta tête au courant de ta carrière?
Toujours.
Ouais.
Puis c'est arrivé des fois où c'est que on n'avait pas le bon suspect. Puis ce qu'il nous disait, c'était vrai. Tu sais, on a fait une erreur. Mais à l'époque...
Fait que t'as relâché ta femme, finalement.
Fais attention, m'écoute, là, mais...
On la salue!
Oui, salut, Jenny.
C'était pas elle qui avait volé le lait au chocolat dans le frigidaire.
Mais tu sais, on parle de choc générationnel.
Ouais.
C'est intéressant, ta question, parce que moi, quand je suis rentré policier, là, les boss, qu'est-ce qu'ils me disaient? Moi, je me rappellerai toujours ma première journée à Gatineau. J'ai eu une journée sur la paperasse, puis le deuxième jour, j'étais tout seul dans le char de police. Je venais sortir de Nicolette.
Et...
Tout seul, là. Fait que j'ai dit au boss, ça n'a pas de bon sens, je ne connais même pas la ville, c'est la première fois que je mets les pieds ici, puis tu me dis, travaille dans le secteur 3, je ne chemine pas, c'est où? Tu sais, puis j'avais ma grosse carte, dans le temps, il n'y a pas Internet, là, j'avais ma grosse carte, puis j'avais demandé à un vieux, j'ai dit, peux-tu me dire, c'est quoi le secteur 3? Puis il m'avait tout griffonné à la carte.
Mais il faisait-tu exprès?
Non, mais c'était ta façon d'apprendre. Ouais. Garoche-toi, puis il disait, « Danny, le pire qui peut arriver, c'est que tu fasses une erreur. » Puis c'était pas grave. Hey, j'avais saisi un char d'un gars, parce que je pensais son permis était sanctionné. Finalement, j'avais mal à regarder, c'était son cyclomateur.
Pas la même chose.
Hein? Ah non, un char est parti sur le towing, puis le gars il est arrivé au poste 2 heures après, puis il m'a stiné, il me disait, hey, ça n'a pas de bon sens, j'ai payé mon permis, c'est pas sanctionné, c'est impossible. Je disais, oui, c'est pas la première fois que je me fais dire ça, arrête, là. Tu payes tes tickets, puis merci, bonsoir. Mais en réalité, il avait raison, lui-là. Là. Puis ouais. Quand je suis arrivé le soir, il m'attendait, puis là, mon boss, il dit, va non, t'excuser. Là, je comprenais pas, il dit, c'est son cyclomateur, c'est sa classe 14.
Pas la même chose.
C'est
hein?
Ça. Puis je veux juste revenir sur la question de Pascal, c'est que, tu sais, des fois, faut se situer par rapport au temps aussi, tu sais, il n'y avait pas de GPS, nous autres, là. Vous n'aviez pas de GPS dans le char. Fait que toi, t'arrives dans une autre ville, puis on te dit, tu patrouilles la 3. Là, tu te dis, ben là, je sais, 3, je suis dans quelle 3. Ville, la 3, c'est la 3. Où, là? Tandis qu'aujourd'hui, ça doit être un peu plus facile, tu sais, l'opérateur te donne une adresse, tu la rentres, puis le GPS te dit comment faire pour te rendre.
Mais ouais. Tu dois quand même avoir à t'inculquer une discipline pour l'apprendre. Tu ne dois pas avoir à te fier juste sur tes outils.
Ben, les artères principales sont dangereux. Faciles à apprendre. Ouais. Mais, je veux dire, à Londres, là, ils ont étudié le cerveau des chauffeurs de taxi. Ils se sont rendus compte qu'ils développaient comme une certaine partie de leur cerveau que la majorité des humains n'étaient pas capables de développer.
Avant le GPS et tout, maintenant.
Avant
là.
Le GPS. Mm-hmm.
C'est sûr.
Je veux dire, fait que les gars, ils arrivent à Gatineau. C'est la première fois qu'ils arrivent dans cette ville-là. On dit, patrouille, il y a le secteur 3. Ben là, tu avais ta grosse carte papier.
Ouais.
Ça, visuellement, ça aide et tout, mais...
Faut que t'arrives le plus vite possible sur le lieu d'appel, mais là, faut que tu regardes sur ta carte papier.
Faut que je tourne à gauche une fois, à droite,
moi, j'arrivais...
gauche, droite, droite, gauche, droite, là.
Il y avait une alarme de dépannage, j'arrivais 30 minutes après le propriétaire, là. je faisais à croire que j'avais un autre appel plus urgent.
Fait que la peur de se tromper, ça fait partie de la job.
Ça faisait partie de la job.
OK. Mais... T'as-tu déjà croisé des criminels qui t'en voulaient lorsque t'étais au civil?
En civil?
Ouais.
Non, jamais. Au contraire. Et puis ça, écoute, c'est un peu comme vous autres. Comme moi, quand je t'ai vu, Pascal, à lutte, je t'ai salué.
Mais oui.
Tu m'as regardé en voulant dire salut, puis tu t'as fait comme si de rien n'était.
Voici puis... Yann, ta place. Vas-y, Yann, vas-y. La porte est ouverte. C'est tout le temps de même. Parfait, on la connaît. On continue, Dany.
Mais t'avais aucune idée
j'ai
de qui
replacé,
j'étais.
J'ai pas replacé, mais non.
OK, bien, c'est pareil. Moi, mon année, on peut en arrêter, je sais pas, au moins une cinquantaine, une centaine par année.
Ouais.
Eux autres vont toujours se rappeler de toi, mais toi, tu ne te rappelles pas d'eux
c'est
autres.
C'est difficile, là, dans quel contexte, c'est au travail, c'est au personnel, c'est un ami d'amis, c'est un... Hey, ça doit être complexe.
Ben là, ils viennent voir au dépendant, tu es avec ta femme. « Hey, salut Danny, comment ça va? » Là, tu sais, sur le coup, tu n'es pas pour dire « Ben, est-ce que tu es qui, toi? » Tu jases un peu, tu fais des liens communs, mais c'est la même chose pour vous autres. Un auditeur qui vous aime vient vous voir dans les galas de lutte.
Mais là, si tu es un auditeur,
c'est
un
qui,
ami,
ça?
Si tu es l'ami de mon père, si tu es quelqu'un avec qui j'ai travaillé, si tu...
Ben là, c'est en posant des questions, en faisant des liens communs, puis tu glisses. Puis... Mais moi, ça m'est jamais arrivé, pour répondre à ta question, qu'un gars est venu me voir, puis « Hey, toi, à cause de toi, j'ai fait 5 ans de prison, je vais t'en vouloir le restant de mes jours. » Jamais. Puis ça revient un peu à ce que Roger Ferland disait, puis que moi, je dis aussi, là, tout est dans la façon dont tu traites l'être humain, l'individu.
Quand t'es droite,
dans le respect.
Ça va bien fonctionner. Hey,
une question intéressante.
Oui, vas-y. Ah, cool. Les auditeurs.
Oui, absolument. Votre meilleur chef et le pire chef de police que vous avez eu, sans nommer de nom, mais dans l'attitude, puisque sinon, si vous voulez nommer des noms, on va une plainte, là.
Non, je nommerai pas de nom. On dirait que c'est un de mes chums qui écrit ça, là. Ben, je vous dirais que moi, personnellement, le meilleur boss que j'ai eu, je le nommerai pas, là, c'était au crime majeur. Puis c'était un vieux loup, un vieux de la vieille. Ben, je peux en nommer un. Il y a eu Bob Pigeon, lui, qui est très connu, qui a fini directeur...
Robert Pigeon,
à Ville de Québec. Lui, c'est un homme qui était glacial, mais c'était tellement un homme compétent qui inspirait le respect. Mais,
c'est fou, ça. Ça fait toute la différence.
Hein? Ouais. Mais moi, les boss que j'aimais le plus, c'est ceux qui me disaient mes 4 vérités. Même s'ils sacraient, même s'ils mettaient un coup de poing sur la table, tu sais, dans la police, là, à un moment donné, ça me faisait pas de peine. Puis c'est avec eux autres que j'ai appris le plus. Puis que ça me forçait à devenir meilleur. Ceux, pour répondre à l'auditeur, je la trouve très bonne la question, que j'aimais le moins. Puis c'est un peu le même partout, je pense. C'est les hypocrites et les carriéristes. Ceux qui sont
succulente
pas... Ceux qui sont
réponse,
fake.
Oui.
Ceux qui sont... Ceux que tu le sais qui mentent, puis que tu as des faits en plus, puis ils continuent à mentir, puis qui ont juste un but.
Monter.
C'est soit monter... Soit de te rabaisser parce que t'es une menace, ou soit de te rallier à eux parce que tu es une menace.
Puis en te ralliant à eux, ben eux continuent à avoir la lumière parce qu'il y a un genre de dance for my puppets.
Ils servent de toi. J'aime bien ton expression.
Ah, malheureusement, quand on l'utilise, c'est jamais pour les bonnes raisons, mais elle est claire.
Autre question. De quelle façon on vous donne vos obligations de performance quand on est policier? Mmh. Que ce soit au municipal ou au provincial. Toi, tu as travaillé au provincial.
Tu as fait les deux.
Oui, tu as fait les deux. C'est quoi les obligations de performance que vous avez?
Bon, on va régler de quoi de suite. Il y a des gens, des fois, qui pensent qu'on a des quotas de tickets. Ça me fait penser un peu à cette question-là. Jamais, mais jamais. Puis je vous le dirais, là, je suis assez insincère avec vous. Il y a un boss qui nous a, qui m'a dit, « Hey, Danny, ça me prend 10 étiquettes par jour. » Non. Ça y va vraiment avec la rigueur. Puis si tu en ramènes plus, tant mieux. Si tu en ramènes moins, peut-être que tu vas te faire dire dans notre évaluation qui s'appelle le PAPP, un programme d'appréciation du personnel policier, garde au niveau du cas de la sécurité routière, écoute, il faudrait peut-être que tu en fasses un peu plus. Puis, par contre, au niveau des mandats, des exécutions de mandats, t'es super.
Mais on ne peut pas l'inventer, maintenant.
C'est parce que j'ai des jumps patrouilleurs pour la Sûreté du Québec qui sont sur les autoroutes. Puis eux autres, tu sais, des RAS, là, les boss n'aiment pas bien ça, là, rien à signaler. Puis il faut que tu justifies ton travail aussi. Qu'est-ce que tu as fait pendant ta nuit, exemple? Tu sais, as-tu eu des appels? Parfait, t'es allé où? OK. Il n'y a personne qui a roulé au-dessus de 119 km/h. Il n'y a personne. T'es sûr? T'sais? Si ça arrive trop souvent, c'est sûr que tu vas te le faire dire.
C'est ça,
justifie ton travail, là.
Tu sais, nous autres, le matin, là, ou peu importe ta relève, tu commences en faisant l'inspection de ton véhicule, puis tu mets le kilométrage de ton véhicule, l'odomètre. C'est sûr que si, à la fin de ta nuit, t'as fait 50 km dans ta nuit, puis t'as rien décrit dans d'autres, une formule 5-18, c'est ton activité policière de ton chiffre.
Ouais.
Attends-toi à avoir des questions de ton boss, avec raison aussi. Là.
Les fameux manger de bain avec le café qu'on vient d'aller.
Qu'est-ce que t'as fait pendant 50 km? T'as dormi toute ta nuit à l'île d'Orléans, mettons.
Ben, vous avez un GPS dans la voiture aussi qui permet de savoir si vous êtes au Krispy Kreme ou...
Oui. Mais, tu sais, si t'as été inondé d'appels ou si t'es pris sur un dossier majeur ou c'est que t'as arrêté quelqu'un puis ça a pris tout le chiffre, t'auras jamais de problème.
Exact. Au niveau des enquêtes, étant au crime majeur, avez-vous une obligation de... Ben, en fait, est-ce qu'on vous juge par rapport à la résolution de crime?
Le crime majeur, là, c'est dur parce que, veut pas, c'est pas... On peut pas le quantifier comme les constats d'infraction.
Ouais.
C'est plus au niveau qualitatif. Je vous dirais que au crime majeur, on travaille beaucoup en équipe. Donc, on va être jugé au niveau de l'équipe. On parlait tantôt d'interrogatoire, tout ça. On est une équipe de 8 plus un chef d'équipe au crime majeur. Donc,
quand vous vous occupez d'un dossier, vous êtes 8 ou tout le monde a des
dossiers? Ça dépend du type de dossier, mais si on a un dossier avec deux suspects, une victime, une scène de crime, 18 témoins, on va sortir toute l'équipe puis même plus. Il faut clairer une bonne partie de la job. Les 24-48 heures sont les plus importantes. Donc, on va être jugé au niveau de l'équipe. Mais on a toutes nos forces, nos faiblesses. Il y a des gens, là, ça serait des écrivains dans la vie, je suis convaincu, on va les mettre aux rédactions de mandats. Il y a d'autres personnes qui sont très forts en communication, on va les mettre au niveau des interrogatoires. Ensuite, ça va prendre un responsable de dossier qui, lui, est bon au niveau de l'enquête, au niveau des stratégies d'enquête. Puis, certains autres, on va les mettre au niveau des témoins, au niveau d'enquêteurs scène de crime avec le technicien d'identité judiciaire. Mais tout ça mis ensemble, toute cette équipe-là, bien, c'est comme ça qu'elle va être jugée. Puis, tu sais, on s'entend, il y a des dossiers qui sont plus difficiles à résoudre que d'autres. On parlait tantôt de dossiers pas de suspect, pas de caméra, un rein isolé. Les taux de réussite, bien, ça risque de prendre plus de temps.
Danny, y a-tu des dossiers que tu as eus dans ta carrière qui te posent encore des problèmes aujourd'hui, en 2024, là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là? Puis, lui, étais-tu vraiment coupable? Tu sais, un suspect que tu n'as jamais réussi à trouver?
Non.
Ça te hante pas?
Non. Ça me hante pas, mais on parlait de troubles obsessionnels.
Ouais.
Moi, je suis un rumineur. J'ai tout le temps ruminé. Donc, j'arrivais le soir, puis je suis tout le temps à me poser des questions, à savoir, ça, c'était avant la cour. Bon, OK, j'ai tel dossier, comment je l'ai traité? J'aurais-tu pu faire mieux? J'en parlais souvent, on faisait des debriefings avec la gang. Qu'est-ce qu'on a... Tu sais, moi, je veux pas savoir les bons coups qu'on a faits. Ça, c'est correct, on les connaît toutes. Moi, je veux savoir ce qu'on a échappé pour ne pas la refaire le prochain coup.
Mm.
On va travailler sur nos faiblesses et non se vanter puis se taper sur le dos. Fait que moi, mes debriefings, c'était jamais super positif avec ma gang, là. Mais par contre, où est-ce que ça venait me chercher? C'est quand que le gars, il est acquitté, Alors que tout le monde sait qu'il est en réalité coupable, mais que le juge, pour une raison X, a décidé de l'acquitter. Là, à ce moment-là, là, ça risque de me faire ruminer longtemps, à savoir, c'est-tu la police qui l'a échappé? C'est-tu le témoin qui a mal été préparé, qui a mal témoigné? Est-ce que c'est le mandat qui était mal rédigé? Ou pire, est-ce que c'est l'avocat qui a payé très cher, qui a réussi à soulever un doute raisonnable, qui a fait en sorte qu'on a perdu notre dossier?
Ça te gossait, ça.
Parce qu'après, il est en liberté aussi. Que... Ça doit être tannant de savoir, mettons, que la personne est coupable puis qu'elle est encore en liberté puis qu'elle pourrait peut-être commettre d'autres actes criminels.
Mais moi, j'ai un compte à rendre à ma victime ou à mes victimes. Ouais. Moi, je travaille pour mes victimes. Tu sais, oui, ça va, c'est tel quel. Mais dans mon cas, j'ai toujours été le même. Puis ceux qui me connaissent vont le dire. Ma priorité, c'est d'aller victime. Puis d'arriver, d'expliquer à la victime, regarde, c'est plate, là, on a perdu. Pourquoi? Ben, c'est parce que j'ai fait une erreur dans le mandat. Imagine-toi comment ça peut être grave. Ouais. Moi, je veux pas que ça m'arrive.
Est-ce qu'on dit la vérité dans ce temps-là ou pas toute vérité est bonne à dire?
Moi, j'ai toujours dit la vérité. J'ai rien à cacher. Puis, tu sais, si c'est nous autres qui l'a échappé, on est des êtres humains. C'est triste, puis ça me fait de quoi, puis je veux pas l'échapper, puis il n'y a pas une police que je connais qui veut l'échapper. Mais, garde, ça peut arriver. Ça, je vais ruminer longtemps.
Tu sais, puis il y a des dossiers qui ont été un peu plus médiatisés dans les dernières années. Tu sais, Cédrica Provencher, je sais que les gars et les filles qui ont travaillé sur l'affaire, eux autres, jusqu'à la fin de leur carrière, ils vont se souvenir de ça. Même à leur retraite, ils vont se souvenir de ça. Ils auraient tellement aimé mettre la personne responsable de ça en prison.
Encore aujourd'hui.
Malheureusement, c'est pas arrivé. Tu sais. Les petites sœurs Carpentier, tu sais, les policiers de la Sûreté du Québec ont tout fait pour essayer de les retrouver. Puis il y a eu quelques erreurs. Puis là, espérons que la Sûreté du Québec a appris de ces erreurs-là, bien entendu. Un jeune homme qui est disparu du côté de Saguenay, David Fortin, qui est disparu. On ne sait pas, il est où. T'sais, les policiers se posent toujours des questions, encore à ce jour. Marilyn, qu'on a parlé là, peut-être deux semaines, toi et moi, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui est arrivé. On sait toujours pas qu'est-ce qui est arrivé. Fait que ça, c'est le genre de dossier qui va vous trotter dans la tête jusqu'à la fin de vos jours, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on trouve « Ah, ben finalement, elle a été retrouvée à telle place. »
Oui, et si.
Puis, tu sais, ça fait longtemps, fait que souvent, on a nos cold cases. Fait que c'est tout le temps les nouveaux enquêteurs, qui rembarquent sur ces dossiers-là, puis qui regardent le travail antérieur qui a été fait. Fait que ceux-là qui sont à la retraite, c'est certain, je me mets à leur place dans le dossier de Cédrica. J'en connais Alain et tout ça. Lui, là, il pense encore à ça, là, à l'heure qu'on se parle, là.
Hey, ça reste toute ta vie. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on sent qu'il y a une recrudescence de l'engouement du métier de policier en 2024? Quand c'était si bien vu, si apprécié, si grandiose.
Tu trouves qu'il y a de l'engouement ou l'inverse?
Un désintérêt.
Un désintérêt?
De l'engouement.
OK, oui, là, tu as raison. Bien, moi, je vous dirais que c'est une question de société. Tu sais, aujourd'hui, là, on parlait d'erreur. Quand je commençais, j'avais le droit à l'erreur. Là. Mon boss, il me disait, garde, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'être sur le terrain, lance-toi. Puis je suis sûr, Yann, ça a été la même chose en radio. La meilleure façon d'apprendre, voici ton radio, ton micro, puis commence.
On apprend encore à chaque jour et on fait des erreurs à chaque jour.
On va tout le temps faire. Mais aujourd'hui, écoutez, on est tellement scruté. Tu parlais de BEI, ça n'existait pas dans le temps. C'était les normes professionnelles, c'était les affaires internes. Ça se réglait au niveau souvent disciplinaire. Tu avais une plainte d'un citoyen, c'était au niveau déontologique. Mais là, à partir du moment où c'est que tu commets une faute mineure, je vais t'en compter une qui est épouvantable, ça va te répondre à toute ta question. Dans le temps, j'étais responsable des enquêtes à Saint-Antoine-de-Beaupré, le pont des chutes Montmorency. Il y a un gars qui veut se suicider, puis ça fait pas très longtemps, je ne le nommerai pas. D'un bord, la route arrête là, notre ligne à nous autres arrête là, entre la Sûreté municipale de Québec... Puis la SQ. Souvent, on fait des blagues entre nous autres. On dit, j'espère qu'il va aller du bord de la ville de Québec, tu sais, pour que ça soit notre dossier. Ouais. Mais bon, le gars, la sûreté arrive en premier. Puis la ville de Québec arrive peu de temps après. Non, c'est l'inverse, excuse-moi. La ville de Québec arrive avant. Il discute avec l'homme en question. L'homme ne veut rien savoir. Finalement, il décide de poser son geste, se tire en bas des chutes, décède. BEI, grosse enquête, parce qu'il y a eu une mort d'homme lors d'une intervention policière. « Hey, je m'excuse, mais il n'y a pas un policier qui veut tirer quelqu'un en bas d'un pont. » Ces gars-là ont été enquêtés, là. Ils ont été rencontrés, les droits, tout ce que tu veux. T'as-tu le goût de vivre ça aujourd'hui en 2024? T'as-tu le goût?
À partir... Déjà, l'acte devait être difficile à voir, à vivre avec. Il y a un certain, peut-être, traumatisme pour d'autres. Puis là, t'es enquêté, puis ça prend ton temps, puis ton énergie, puis ton stress.
Ouais, c'est épouvantable. J'ai un gars que je gérais dans le temps, mais je ne le nommerai pas. Lui, il était dans le coin de l'Outaouais, puis à un moment donné, il a fait un accident. C'est pas de sa faute. Il y a eu des morts. Et lui, il a failli mourir, lui aussi. Il, son dossier vient de se régler. Ça fait 5 ans. Il était 5 ans avec un épée de Damoclès en haut de sa tête, à ne pas savoir s'il allait avoir une job demain matin. Puis malgré tout, il continuait à travailler. C'est dur. C'est dur quand tu ne sais pas ce qui peut t'arriver.
Ouais.
Fait, est-ce que tu as le droit à l'erreur aujourd'hui? Beaucoup moins. Puis pour répondre à ta question, ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a des, les gens, le policier, le travail de métier de policier est beaucoup moins noble qu'avant. Puis ça, c'est sans compter tout ce qui s'appelle cellulaire, montage vidéo et tout. Moi, j'ai pogné un shot là, quand je suis retourné sur la route au crime organisé en 2019. C'est la première fois que je me faisais filmer à 2 pouces de la face. J'avais jamais vécu ça avant. C'était difficile.
Les caméras des gens ou...
Les gens ont le droit de filmer les policiers lors d'intervention, mais quand t'es pas habitué, oui, ça l'intimide. Puis je peux te dire que les gens ont toujours le droit de... Puis c'est correct, tu sais, les policiers sont habitués, ils sont formés pour ça. Mais tu sais, il faut pas qu'ils nous intimident non plus, puis il faut pas qu'ils entravent notre travail en étant à 2 pouces de nous. Parce qu'à ce moment-là, ils vont perdre le cellulaire, ils vont se faire arrêter.
Mais ça se peut-tu que les formations pour les policiers ont tellement changé pour vous rendre le plus en plus humain possible qu'à un moment donné, vous êtes obligé d'encaisser des affaires que vous devriez pas encaisser dans cette société-là? T'sais. Les insultes aux agents de la paix, là, les gens qui se filment puis ils veulent insulter l'agent de la paix. T'sais. L'agent de la paix, il est en train de se faire filmer. Il dit, attends un peu, je vois-tu pogner les nerfs, moi, là? Qu'est-ce que je fais? Je donne ça une étiquette parce qu'il m'a insulté. Si je donne une étiquette parce qu'il m'a insulté, ça va être encore pire. Techniquement, vous n'auriez pas à vous poser ce genre de questions-là. Il t'insulte, c'est voici l'étiquette. T'as-tu d'autres choses à dire? Ah, tu m'insultes encore? Un autre. T'en as-tu d'autres choses à dire? Un autre. Tu te débrouilleras, t'as 30 jours pour contester. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. On dirait que les policiers ont tellement été habitués à l'école à être humains puis compréhensifs envers les gens qui rushent que le respect du policier puis de la policière a comme disparu avec le temps, alors que ça ne devrait pas être ça. Ça prend des gens comme vous autres pour faire fonctionner bien une société.
Bien. Yann, moi, je travaillerai avec toi demain matin parce que ce que tu viens de dire, c'est exactement comment je procède encore jusqu'à tout récemment. Tu as 30 jours pour payer, garde, tu iras contester, tu iras compter ta bullshit au juge, tout ça. Aujourd'hui, les policiers, là, c'est pas qu'ils sont moins bons qu'avant ou quoi que ce soit, mais ils pensent beaucoup plus.
Ils sont beaucoup plus tolérants.
Parce qu'ils sont encore scrutés. C'est encore la même raison.
Avant, là, action-réaction.
C'est ça.
On se posait pas de questions.
Tu niaisais pas avec un policier.
Ben non, t'as commis une infraction. On les connaissait, nos infractions. T'es en état d'arrestation. Aujourd'hui, c'est OK. J'ai-tu le droit de faire ça? C'est quoi mes pouvoirs d'arrestation? Est-ce que j'ai le droit de le détenir?
Vous avez plus de charge mentale qu'un individu qui vous confronterait, ça veut dire, là?
Oh oui! Puis, tu sais, c'est malheureux que la société, le droit soit rendu de même. Parce que à force de trop penser, tu n'agis plus. Puis à un moment donné, il va arriver un événement où c'est qu'il va falloir que tu agisses rapidement. Puis au lieu de ça, tu vas penser.
Pourquoi on s'est rendu là, Danny? Pourquoi on s'est rendu là en tant qu'ex-enquêteur? Là? Il y a sûrement des déclencheurs.
Bien, Yann l'a amené. T'sais,
c'est la société.
C'est la société, puis les policiers...
Mais c'est large.
...ont peur de perdre leur travail. Mmh.
Puis on demande au service de police de la Ville de Québec d'agir à titre de psychologue. Ces gars-là ont été formés... Ces gars-là et ces filles-là ont été formés à Nicolette. Bon, ils sont capables... Ils ont des petites bases de psychologie, mais d'intervenir en santé mentale constamment, 80 % du temps au centre-ville de Québec, avec des gens qui sont intoxiqués soit par la drogue, soit par l'alcool. Je veux dire, c'est lourd. Là. Puis là, ben, les gens sont intoxiqués, fait qu'ils insultent les policiers. Puis là, ben, ça donne un exemple aux autres comme quoi on peut insulter les policiers sans aucun problème.
Parce qu'on n'a pas d'escouade qui est capable de gérer, mettons, une violence physique ou verbale et de la psychologie en même temps qui pourrait prendre cette charge-là autre qu'un policier-policière. Fait que, bon, mais quand on dit la société nous a amenés là, moi, j'ai quand même une sous-question. L'étau était où? Pourquoi est-ce qu'on a accepté ça de façon générale? Ça a-tu été des gens qui ont critiqué, qui ont eu la parole plus forte que d'autres?
Je pense que c'est les lologues qui sont rentrés là-dedans, c'est les psychologues qui sont rentrés là-dedans. Voici comment les policiers devraient agir avec les gens.
Tu sais, quand on est rendu sans nommer de ville, qu'on dit « défendre de police », puis « mettez plus de guns », puis « ma ville est sécuritaire quand qu'à tous les jours, il y a un crime par arme à feu », puis « je vais pas donner à la ville, on va dire c'est une métropole
».
Tu sais, là, on est loin, là. On est rendu là. C'est parce qu'on voit pas la même chose. Moi, demain matin, on
le sait. Ça de la pérade, c'est tellement compliqué là-bas, pareil.
T'sais, on sait ce qui se passe dans les rues actuellement, surtout sur la rive sud. T'sais, tu peux pas arriver à un policier pas d'arme à jaser. Puis, tu sais, avant, moi, quelqu'un qui voyait des libellules géantes, là, j'appelais l'ambulance, puis je disais, regarde, il y a un gars bizarre qui voit des libellules géantes. Merci, bonsoir, je n'en entendais plus parler, puis ça prenait 15 minutes, l'ambulance était partie avec. Aujourd'hui, là, effectivement, Yann, t'as raison. Là, ils ont une formation, je me souviens plus c'est quoi le nom, où c'est qu'ils doivent discuter pendant nombre de temps. Québec doivent appeler pêche, et puis nous autres aussi, il faut qu'on appelle quelqu'un. Puis là, on discute avec le gars pour savoir si il y a un risque pour lui, pour les autres, si on l'amène à l'hôpital, si on le laisse là.
Mais si là, on est rendu là, c'est-tu qu'on a eu besoin? À chaque fois, je suis déchirée là-dedans.
Écoute, hein. Moi, à un moment donné, j'étais à l'aéroport là, au Mexique, puis il y avait des problèmes de retard d'avion, puis autant la gang de Québec puis de Montréal, les avions étaient cancellés depuis 3-4 jours. Là. Puis ils n'ont pas invité la police du Mexique à venir faire un tour à l'aéroport, c'était la Guarda. Là.
Okay.
Puis le monsieur mexicain, il devait mesurer, c'est un Mexicain natif, il devait mesurer à peine 5 pieds. Puis quand le Montréalais l'a écœuré, il a levé la mitraillette dans les airs, puis il a dit « Tranquilos! » Puis là, tout le monde a fermé sa gueule.
Oui, mais là, la mitraillette dans les airs avec « Tranquilos! »
Ça revient à ton pays, hein?
Je
ton pays,
c'est un
tu vas,
peu beaucoup, tu là. Faire, tu, ouais, veux pas, tu veux pas vivre là-dedans, là. Ben, « Tranquilos! » Parce que sinon, Yannick m'en avoir une à chaque jour. Non, mais, tu vas te tranquiller.
Mais là, j'ai senti qu'il y avait comme une forme de respect entre le Montréalais puis le
Oui,
le,
mais le respect, c'est par
la
l'arme à feu levée dans les airs.
Mais ça prendrait un retour du balancier ou un peu moins un équilibre.
Dany Morissette, c'est toujours un plaisir de te recevoir. On se reparle dans deux semaines ou la semaine prochaine avec Audrey. C'est déjà fini, ça passe super vite. Les auditeurs sont super contents.
Ouais. Vraiment beaucoup de commentaires.
Moi, je suis super content. Hey, tu me donnes-tu un petit 15 secondes?
15 secondes.
Écoute, rapidement, j'aimerais souhaiter j'aimerais souhaiter une belle fête à mon père qui a 82 ans aujourd'hui.
Wow.
Je ne l'ai pas dit souvent à mon père. Mon père, c'est un gars tough. Hein. Il a travaillé 46 ans au Port de Québec. Mais regarde, papa, il y a des milliers d'auditeurs qui entendent. Je t'aime, puis je te souhaite une belle fête. J'espère que tu vas rester longtemps avec nous autres encore. Merci beaucoup.
C'est quoi son prénom?
C'est Marcel Morissette Junior.
Bonne fête, Monsieur
bon
Morissette.
Bon anniversaire à un policier. Ah, ouais. Yannick, mort l'alpha.
Ils peuvent avoir le
cœur. Prends le temps de dire bonne fête et je t'aime à son père.
Ah, c'est beau.
Merci.
C'est beau. Merci, Dany.
Merci, vous autres. Bye.
Marceau. Bonne mic qui est déjà terminé. Audrey qui va revenir à partir de lundi. Pascal va nous quitter puis elle va rester avec nous sur l'heure du midi, bien entendu. Pascal qui a failli mourir dans les dernières secondes. Pour en savoir plus, restez là. Parce que le Marceau le midi va commencer dans les prochaines minutes. Si quoi que ce soit qui se passe sur la route, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021. On revient, les amis. Papa, raconte-moi une histoire.